grésitant. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. Toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois micro. Notre invité a fait carrière comme journaliste à la Société Radio-Canada. Il s'adonne aussi à l'écriture. Ainsi, son premier roman, Manigance, publié à compte d'auteur en 2003, a remporté le prix littéraire Grosselle en Belgique en 2005. La suite, Pénitence, est sortie en librairie en 2004 et le troisième opus, Innocence, est apparu en 2007. Et au gré du temps, la plume continue de déverser l'encre sur le papier avec nous, Denis Martin Chabot. Oui, ça coule et ça coule, n'est-ce pas?
Oui, oui. Ça croit que j'ai pas de vie, je passe mon temps à écrire.
Sans compter tous les topos que vous avez pu écrire en carrière.
Oui. L'écriture romanesque ou l'écriture littéraire, comparativement à ce qu'on fait dans le travail de journalisme. Dans le journalisme, c'est sûr que le style est assez limité, parce qu'on... c'est pas vrai, on a notre style, tout le monde, mais il y a des choses qui doivent être dites, puis il y a des choses qu'on ne peut pas dire, on peut pas se laisser aller dans une certaine... On a envolé lyrique, ça marche pas.
C'est le phénomène de la pyramide inversée.
Oui,
on
oui.
raconte tout de suite la fin de l'histoire. En
exactement.
Fait. Ensuite, on raconte les détails. Alors
exactement.
Que dans le roman, c'est l'inverse.
À 1 minute 45. Alors, dans le roman, là, je me suis laissé aller. Mon dernier roman fait 400 pages. Je pense que j'avais beaucoup à dire.
Oui.
Et je pense que je sais pas, j'ai toujours ce côté de moi. Une des choses que j'aurais voulu faire quand j'étais jeune, je me disais, j'aimerais tellement être soit chanteur d'opéra ou d'être comédien. Bon, on va laisser faire l'opéra. Parce que,
on peut essayer si vous voulez pousser quelques notes.
Ouais, je pense qu'on va garder ça pour la douche. Parce que mes chaises cachent si je chante.
Ouais.
Alors, par contre, j'ai été comédien, j'ai joué au théâtre de façon professionnelle, semi-professionnelle quand j'étais dans l'Ouest. Imaginez que les petits théâtres francophones, c'était, il n'y en avait pas beaucoup, puis je cherchais des gens qui pouvaient jouer, je pouvais jouer. Après ça, ben, je me suis dit, j'aimerais bien écrire des choses. Et puis, je sais pas, c'est arrivé, j'ai pris un cours d'écriture dramatique. En fait, je voulais améliorer mon style journalistique. Peut-être qu'en allant, tu sais, un peu comme... j'allais dans le champ gauche pour voir ce que je pouvais retrouver dans le champ droit. Hein. C'est souvent comme ça.
Puis vous avez fini à Récourt.
Et voilà. Alors... J'ai pris des cours d'écriture et puis c'est pas devenu une pièce de théâtre, c'est devenu un roman, un deuxième, un troisième. Et j'ai pris goût à écrire.
Et là, ça devient une passion. Là.
Oui.
Là, vous avez comme le besoin d'écrire.
Oui.
Ça s'explique mal.
Oui, alors, et puis moi, je suis un homme assez organisé. Alors, je suis debout le matin, habituellement vers 5 heures.
C'est ce que j'allais vous demander. Vous écrivez tôt le matin?
Oui. Alors, je nourris mes chiens. Je vais m'entraîner, alors je pars à la course, je me rends à mon gym, je reviens, puis là, à 7h30, 8h, j'écris. Et maintenant que j'ai le contrôle de ma vie, alors je m'organise pour ne pas trop prendre de rendez-vous le matin, j'essaie d'écrire de 8h à midi. Et si j'ai pas de rendez-vous, le problème, c'est que là, j'écris jusqu'à 4-5h du soir, et là, je suis épuisé. Mais on devrait pas faire ça de toute façon, parce que souvent, je regarde ce que j'ai écrit la veille, « Bon, t'es fatigué, là, ça marche pas, là. » Mais c'est une passion, on a besoin de le faire.
Curiosité, quand on se met à écrire comme ça, est-ce que en se mettant à écrire les premières phrases, on a déjà une idée de l'endroit où on veut aboutir, ou il y a une forme d'écriture automatique?
Bon, je vous avais déjà rencontré un de mes anciens collègues de travail, François Mouton. François, qui était réalisateur à Radio-Canada, qui l'est encore, avec qui j'ai travaillé beaucoup. Je suis un gars, je suis organisé. Je suis pas très bon dans l'improvisation. Quand j'écris un roman, j'ai déjà un plan de fait. Je fais beaucoup de recherches pour travailler mes personnages. Je les invente, mais j'ai comme une bible, une espèce de calepin de notes où chaque personne est décrite. Et quand j'écris, c'est souvent, je vais, chaque chapitre, je sais où je vais commencer, où je vais finir.
D'accord.
J'ai besoin et j'écris comme on écrirait peut-être un film ou un topo. Il y a toujours un point à la fin, puis je recommence. Hein. Il y a toujours cette montée dramatique. J'appelle ça le dos de la baleine. Alors, il y a le crochet au départ. Dans mes 20 premières pages, j'essaie de vous accrocher. Puis après ça, je fais ma montée dramatique jusqu'au point tournant et puis la chute. Je fais la même chose dans mes romans.
C'est drôle que vous parliez de dos de baleine parce que vous avez surtout vécu dans les plaines.
Oui.
Au moment où vous avez découvert ce goût pour l'écriture, vous étiez dans l'Ouest canadien. Oui. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous nous proposez Daniel Lavoie.
Ah, c'est tellement une belle chance.
Alors, on va l'entendre, Jour de plaine, avec Joran, parce qu'il a refait cette chanson en compagnie de Joran.
sur la plaine, je connaissais rengaine et ses vents. J'ai les racines dans la plaine, j'ai toutes ses rengaines dans le sang.
Revenons à l'écriture, Denis Martin. Donc, vous vous êtes organisé, vous avez un plan, mais on dit souvent que lorsqu'on écrit, on devient un peu prisonnier de ses personnages. Est-ce que vous vivez ça aussi?
Oui, oui. Et souvent, je dirais que pour le prochain roman que je suis en train d'écrire, qui est de l'autofiction, je parle d'événements qui me sont arrivés, et je me suis rendu compte que le personnage... En fait, c'est assez spécial ce que je fais là. Le narrateur parle au personnage. Il lui raconte ce qui lui arrive. Alors, c'est écrit à la deuxième personne du singulier. Mon narrateur, donc, tutoie mon personnage, et puis il lui explique ce qui lui arrive. C'est assez intéressant comme processus. Et même à ça... mon personnage finit par me faire changer, et même mon narrateur change les choses aussi. Alors oui, le plan est intéressant parce que le plan nous donne une idée de départ, mais faut pas être fermé, ça, faut pas avoir de visière, il faut laisser aussi libre cours. Alors je pense que ce roman-là, ça va être 80% de ce qui était prévu, puis 20% c'était d'imprévu.
C'est une trilogie parce qu'il y a eu Manigance.
Il y a eu quatre romans qui s'appelaient Les Histoires du Village. Donc, c'était Manigance, Pénitence, Innocence et Accointance, qui était une quadrilogie. Et ce que j'ai publié aux éditions La Semaine, on a repris les quatre romans, on les a refaits en deux romans. Parce que quatre romans, ça fait trop. Là. Une série, les gens se tannent. Oh, il y en a encore un autre. Alors là, au moins, disons ça. Mais le problème, c'est que ça leur donne des romans de 400 pages. Alors ça, c'est autre chose. Mais il y a des gens qui aiment ça. Alors,
oui.
Mais ce que j'écris maintenant, c'est complètement séparé. Ça me touche beaucoup. C'est beaucoup plus proche de moi. En fait, plus j'écris, hein, les gens disaient que le premier roman est très proche de soi. C'est pas vrai dans mon cas. Il n'était pas du tout proche de moi. Mais le deuxième, il est très proche de moi. Et le prochain, c'est vraiment dans ma vie. C'est l'autofiction. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est pas vrai? Dans une bonne autofiction, je vous dirais, c'est 50-50. Alors, il y a des faits qui sont vrais. Parce que je brode autour et j'améliore les choses comme j'aurais peut-être voulu qu'elles se passent.
Ou on les atténue. Où on les gonfle.
Oui. Voilà. Et là, ça, c'est le propre de l'écrivain. C'est on s'amuse avec les faits, on s'amuse avec l'histoire.
Ce qu'on ne peut pas faire lorsqu'on est journaliste, parce qu'il faut s'en tenir au factuel.
Oui.
Quoique, on pourrait ouvrir une grande discussion maintenant que le journalisme est devenu plus un journalisme d'opinion qu'un journalisme de faits.
Ça me désole.
Ça vous désole.
Ça me désole. Je suis un gars de faits. Je suis un gars qui... moi, je pense que foncièrement, le téléspectateur, le lecteur, l'auditeur à la radio, ce sont des gens intelligents. Et ils peuvent, on leur donne les faits, ils vont comprendre ce qui se passe. J'ai pas besoin de leur dire quoi penser.
D'ailleurs, quand on pense à vous, on pense souvent à ces reportages que l'on voyait où on faisait
l'épreuve des faits.
Est-ce vous qui avez lancé cette idée?
Non, c'est une idée qui a été lancée par la direction. Ils ont fait ça beaucoup dans le temps des élections, mais on a décidé de le faire à l'année longue. C'est un défi.
Alors, on écoute la prochaine formidable Stromae.
Formidable. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable,
Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas. Hé, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé hey, petite, un pardon petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
C'est vrai que c'est formidable ce que vous nous avez raconté jusqu'à maintenant, Denis Martin Chabot, qui est avec nous. On a évoqué, pour ceux qui étaient avec nous la semaine dernière, en fin d'émission, l'importance de votre mère,
oui.
De toutes les mères, finalement. Oui. Quoi qu'il y en qui vivent des... Il y a des gens qui ont des enfances plus difficiles que d'autres, mm-hmm. Où la relation avec la mère n'est pas nécessairement une relation qui amène du bonheur. Mais dans votre cas, ça a été une présence chaleureuse, une présence, diriez-vous, éclairante.
Oui. Comment je pourrais vous dire? J'ai été très proche de ma mère. Et non pas que j'étais loin de mon père. En fait, mon père, il me manque beaucoup et je l'ai beaucoup aimé, mais je n'avais pas cette relation aussi proche que j'ai eue avec maman. Et maman, je vais vous dire, c'était tous les matins, le dimanche matin, je veux dire tous les dimanches matins, on passait une heure au téléphone. Et fort heureusement, on a eu maintenant les forfaits qui nous permettaient d'appeler limité d'un boileau du pays.
Parce qu'à l'époque, j'étais dans l'Ouest.
J'étais dans l'Ouest et puis les factures de téléphone, ça peut... Mais je lui écrivais... et j'ai toujours senti que... Maman n'a pas eu une vie facile. Mon père est un homme à femme. C'est un homme qui avait des maîtresses. Et je me suis réveillé la nuit et je voyais maman qui attendait à la fenêtre que papa revienne de sa soi-disant réunion. Il était 3h ou 4h du matin. C'était pas facile. Je l'ai vu pleurer. Ça m'a marqué. Ça m'a fait beaucoup de peine pour elle. J'en ai pas voulu à mon père. Je me dis, ça, c'est pas moi. J'étais pas content qu'il lui fasse de la peine, mais j'ai pas détesté mon père pour ça. C'était pas un homme facile non plus pour nous, les enfants. Moi, il me terrifiait. C'était un homme qui avait une grosse voix. Puis, je me rappelle, j'avais tellement peur de lui parfois, là, quand il parlait trop fort, que je faisais pipi dans mon pantalon, hein. C'était pas drôle, là. Mais, ça, c'est l'enfance. Mais maman, je sais pas, j'ai senti que je voulais lui faire du bien, je voulais la rendre heureuse. Et je l'ai amenée avec moi en voyage. On est allé à San Francisco, on venait me visiter quand j'habitais Edmonton, et je lui faisais voir des choses. Je me disais, au moins, elle aurait eu un petit peu de bonheur dans sa vie, parce qu'il me semble que ça n'a pas été facile pour elle.
Alors, je vais vous proposer un petit cadeau. C'est une chanson qui est assez récente d'un des lauréats de la voix en France, qui a pour nom Kenji Girac, que vous connaissez peut-être, et qui a en disqué une très belle chanson. Ça s'appelle « Les yeux de la mama ». Et ça a un petit côté presque zigane également, mais les paroles viennent un peu exprimer ce que vous venez de dire.
Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle, elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. C'est son sang qui coule dans mes veines, et des souvenirs par centaines bercent mon cœur de mille étoiles. Elle est ma quête, elle est mon graal. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Quand je me blesse, elle est douceur, comme une caresse dans l'existence. Quand j'abandonne, elle devient lionne et me relève avec patience. Quand j'ai la folie des grandeurs, elle me ramène sans me faire mal. Elle est dans ce monde infernal, mon étoile parmi les étoiles. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'apportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle.
C'est beau ce genre de chanson, n'est-ce pas?
Oui.
Denis Martin, vous avez parlé de votre enfance, votre milieu familial, donc pas toujours facile. Il y a pourtant des enfances qui sont parfois complètement éclatées à cause des difficultés que vivent les parents. Mm-hmm. Vigneault disait que nous sommes tous issus des îles de l'enfance. Est-ce que vous partagez ce fait, à l'effet que l'enfance peut tracer la voie pour le reste du parcours de vie?
Ah, c'est sûr que ça a un impact pour le reste du parcours de vie. Mais là, je vais vous dire, je suis quand même quelqu'un d'assez stoïque et je me dis, bon, à l'âge que j'ai là, je ne peux pas mettre ou donner ou accorder toute la responsabilité de ce que je suis à mes parents. J'ai quand même 55 ans. À cet âge-là, je peux prendre mes responsabilités. Mais oui, ça a un impact sur moi. Je l'admets maintenant. J'admets que mon insécurité a quand même ses racines là. Et bon, les parents, ils font ce qu'ils peuvent avec les enfants. Maman disait ça souvent. On fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut, puis c'est vrai.
Il n'y a pas de cours de parents, non.
Non, on vient pas avec un mode d'emploi. J'aimerais bien, d'ailleurs, j'aimerais bien le trouver, parce qu'il me semble qu'il y a des choses que je comprends pas trop encore, puis je sais pas, je pense que ça a été jeté avec la boîte, là, tu sais. Mais, oui, alors, ça a un impact dans la vie des gens, mais je peux pas dire que j'ai eu une enfance malheureuse, mais j'ai pas eu une enfance si heureuse que ça. Mais j'ai des bons souvenirs, j'ai des moins bons souvenirs. On ne choisit pas la famille dans laquelle on est né, elle nous est imposée. Et il n'y a pas de mal à dire que, bon, il y a certaines choses dans mon enfance, dans ma famille, qui ne me plaisent pas. Et je suis certain qu'il y a des membres de ma famille qui doivent dire, il y a certaines choses que Denis Martin faisait qu'on n'aime pas. Mm-hmm. Et c'est correct. Mm-hmm. Parce qu'on est assez grand pour pouvoir se dire ces choses-là sans s'envoyer des couteaux et des fourchettes et puis des assiettes par la tête.
Et Dieu sait que beaucoup de familles qui sont dysfonctionnelles et où ça ne paraît pas nécessairement, non. Et parfois le fait de vivre dans les apparences crée plus de mal que le fait de pouvoir exprimer la souffrance que l'on vit, n'est-ce pas?
Oui, le non-dit, l'incommunicabilité, c'est un gros problème. Moi, je me rappelle, papa, quand il voulait exprimer quelque chose, c'était toujours le même juron. Bon, une raison religieuse, je ne le dirais pas, mais c'était toujours que... C'est, dépendant du ton qu'il utilisait, on savait s'il était content, il n'était pas content, et il fallait deviner tout le reste. Mais bon, c'était comme ça, les hommes ne parlaient pas. Et en fait, c'est encore une vraie, jusqu'à un certain point, les hommes, on a un problème. On se parle pas, on dit pas les vraies choses.
Les femmes ont plus de facilité là-dessus.
Ben, je pense qu'elles ont appris ce que nous, on devrait apprendre. Je disais aux gens, je pense que je suis un homme féministe parce que je trouve qu'il y a des choses que les femmes ont appris à faire que nous, on ne sait pas faire et qu'on devrait faire aussi.
On va réfléchir sur ces paroles de sagesse. On a évoqué le nom de Gilles Vigneault, extrait de sa grand-messe. L'Agnus Dei, c'est l'Ensemble symphonique de Québec et le chœur de l'OSQ qui nous interprète ce bel air. De retour à l'émission Au gré du temps en compagnie de Denis Martin Chabot. J'aimerais qu'on aborde la question de l'amitié.
Oui.
C'est important, ça.
C'est important parce que, d'abord, dans mon cas, je me dis, je n'ai pas de descendance. J'aurais voulu adopter un moment dans ma vie, mais les circonstances ont fait que je me suis séparé. Je me suis séparé beaucoup de fois dans ma vie. J'ai un club des ex assez volumineux. Membership est gratuit. Bon. Et ça, là-dessus, j'aurais voulu adopter. Et j'avais commencé des démarches, mais je me suis retrouvé célibataire. Et l'enfant que je recherchais, je me disais à l'époque, les hommes gays, on avait de la difficulté. Alors, les enfants qu'on nous confiait, c'était souvent des enfants avec des problèmes, l'alcoolisme fœtal, entre autres. Et donc, c'était le genre d'enfant qui s'en venait chez moi. Mais là, je me dis, si je suis tout seul pour élever un enfant avec le job que j'ai, un enfant avec des problèmes de santé, je pense que là, je lui rends pas service. Et j'ai dû, j'avais une quarantaine d'années à l'époque, j'ai dû renoncer à ça. Bon, j'ai fait ma paix avec ça. J'aurais beaucoup aimé parce que je pense que j'aurais été un bon père. Mais maintenant, à l'âge que j'ai, je me vois pas élever un enfant tout petit. Et puis, je me dis, mon Dieu, j'aurai 75 ans quand il va rentrer à l'université. Ça se peut pas. Alors, c'est le genre de truc que je me vois pas faire, là.
Vous savez qu'il y a encore des gens que ça peut heurter quand on entend le fait que deux hommes puissent adopter un enfant. En même temps, au plan des chrétiens, on a un pape en ce moment, qui s'appelle François, qui semble très, très ouvert à l'idée de reconnaître, par exemple, les sacrements pour les personnes divorcées, qui a dit « Qui suis-je pour juger l'homosexualité? » Quand vous voyez cette évolution, si j'ose dire, dans les mœurs de l'Église, vous y voyez-vous un vent de fraîcheur, même si vous m'avez déjà confié que vous n'avez pas la foi?
Non, pas du tout. J'ai apostasié d'ailleurs.
Ah oui?
Oui. Mais bon, cela dit, je ne renie pas nos racines judéo-chrétiennes. Je ne renie pas le rôle important que l'Église a eu pour le peuple québécois. Et dans ma vie aussi, j'ai été quand même éduqué. À plusieurs endroits, c'était des frères et des prêtres qui m'ont éduqué. J'accueille cette ouverture du pape François. Ça me fait plaisir d'entendre ça, mais j'ai hâte de voir dans les faits qu'est-ce qui va se passer, parce que ce n'est pas encore dans les faits. L'Église s'oppose toujours et encore au mariage des conjoints de même sexe, s'oppose toujours et encore à l'adoption. Alors, je ne le vois pas dans les faits. Et pour moi, je pense qu'on est en 2017. Il est clair pour moi qu'un enfant peut trouver deux parents de même sexe qui vont s'occuper de lui ou d'elle, qui vont bien l'élever. Et puis, il ne faut pas mettre homosexualité et pédophilie ensemble. De toute façon, la pédophilie, 90% des cas, ce sont des hétérosexuels. Alors, il faut quand même mettre les choses en perspective. Je comprends et j'accepte que les gens ne soient pas d'accord, mais on ne peut pas avoir une politique dans un pays ou dans une province où ce sont les croyances religieuses qui mènent. Je pense qu'il faut être plus neutre que ça. Maintenant, ça, c'est une question d'opinion. Et comme je dis, c'est rare que j'aie des opinions, mais bon, là, ça me touche. Et si j'avais eu à adopter un enfant, je l'aurais fait. J'aurais été très heureux et j'aurais été un bon papa. Mes chiens pourraient vous le dire maintenant.
Cela dit, vous nous présentez une chanson qui, pour moi, a été une espèce de découverte.
Oui.
C'est Céline Dion, mais ça ressemble pas nécessairement à Céline Dion.
C'est tellement beau.
C'est une chanson qui a été écrite par quelqu'un qui n'était pas connu à la suite d'un concours, oui. Me disiez-vous.
Oui, alors c'est Daniel Picard qui a écrit cette chanson-là. Et à la suite d'un concours, on avait lancé un concours, envoyé une chanson, puis Céline choisira la chanson, et puis c'était la sienne. Vous allez voir que c'est assez touchant, une chanson qui parle du suicide. Quelque chose qui touche beaucoup les jeunes gays aussi. On va l'écouter.
M'en allant promener,
je
plus haute branche, parmi les fruits du marronnier, on dirait que tu te balances. Je t'aperçois et je perds pied, même si plus rien n'a d'importance. As-tu au moins trouvé la clé qui nous redonne notre enfance et nous fout rire des colliers? Cette nuit, c'est le vent d'automne qui te bercera. Laisse-le à l'abri des hommes te bercer près de moi.
Alors, c'était Céline Dion, sur la plus haute branche. C'est touchant comme texte et on s'attend pas à ça de Céline.
Pas du tout.
Mais Céline, c'est une grande artiste et pour l'avoir rencontrée plusieurs fois dans ma vie, c'est une grande artiste. Est-ce que j'aime tout ce qu'elle chante? Non, j'ai pas aimé tout ce qu'elle chante, mais j'aime certaines choses qu'elle fait. Et quand elle chante des chansons à texte, elle en a fait, Plamondon, elle en a fait des chansons à texte et mon Dieu qu'elle les rend bien.
Cette chanson-là... elle a tout pour vraiment nous amener à un niveau de réflexion. C'est-à-dire que ça commence sur les premières notes de La Clairefontaine, qui est une chanson printanière, plein d'espoir, d'un amour qui pourra peut-être venir.
Et d'ailleurs, vous savez que mon dernier roman s'appelle « Il y a longtemps que je t'aime, je ne t'oublierai jamais ». J'ai changé un peu la comptine, mais c'est ça, oui.
Et soudainement, on se rend compte que non, on se retrouve dans un drame profond, celui de la personne qui pense au suicide oui. et qu'on voit pendue au bout de la branche. Mm-hmm. Est-ce que, parce que vous disiez que, bon, comme journaliste, on est souvent témoin de la vie qui bat mm-hmm. autour de soi, mais on est aussi témoin de drames. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des situations qui, dans votre travail, ont atteint vraiment votre sensibilité particulièrement?
Je pense que le pire que j'ai vu dans ma vie, c'était lorsqu'on m'a envoyé à Littleton au Colorado. Vous vous rappelez la fusillade à l'école secondaire? Et encore une fois, c'est arrivé quelques fois dans ma vie, mais ça, c'était la fois où j'ai flanché en onde. La première fois que j'ai flanché en onde, c'était là. Et j'ai interviewé un jeune homme qui me racontait comment son ami avait été tiré à bout portant parce qu'il était noir. Et j'avais avec moi la journaliste de BET, Black Entertainment Television. Et là, je la regarde et elle pleurait. Et puis, quand on est fatigué aussi, et là, même chose, et je me suis retrouvé à pleurer en onde. Ça a été traité avec respect. D'autres moments où ça m'est arrivé, ça a été diffusé, ça m'est arrivé, en fait, même très récemment, je me rappelle encore, il y a eu le 11 septembre où j'ai eu des moments où j'ai trouvé ça plus difficile. Parce que je dis aux gens, on nous demande aux journalistes d'être d'être impassible, mais pas insensible. Il y a des moments où ça vient nous chercher aussi. Je suis un être humain, moi, là, tu sais, je reçois la douleur de quelqu'un et à un moment donné, c'est trop, hein, quand ça rentre, ça en est trop, puis ça peut arriver. J'ai pas été tout seul à faire ça, mais je me rappelle, ça a été noté, il y a des gens qui l'ont vu, ça a été reproduit en ondes. Ça, j'aimais pas ça. Parce que je me disais, je ne veux pas devenir la nouvelle non plus. Si ça m'arrive, le 11 septembre, c'est arrivé, lorsque les tremblements de terre en Haïti, je recevais, les avions revenaient, puis j'avais parlé à quelqu'un qui me racontait comment ça s'était passé, puis il pleurait quand il me racontait ça, puis tu étais en direct, là, puis ça fait des heures que t'es là, puis c'est comme difficile parfois. Puis là, je me dis, bon, ben écoute, mes larmes sont là, elles sont là, j'en ai pas peur, j'en ai pas honte, mais il faudrait pas que ça devienne un spectacle non plus.
Lors du 11 septembre, on a joué aussi presque à répétition et en boucle.
Oui, j'ai pas tout vu. Ce que je sais, que c'est arrivé et puis ça a été reproduit quelques fois par la suite. Et ça m'a beaucoup, ça m'a heurté parce que je me disais, ben ça, c'est pas moi la nouvelle. Que ça soit arrivé une fois, c'est correct, mais ça n'a pas à être reproduit par la suite. Ça, j'aimais moins ça. J'étais moins à l'aise avec ça.
Et c'est là où on peut parler d'une forme de dérive du journalisme, où on joue davantage l'émotion que l'aspect factuel.
L'émotion a sa place oui. en journalisme. L'émotion en télévision, pour moi, c'est le véhicule de l'information. Souvent, par une émotion, on va faire comprendre beaucoup plus de choses que par des mots. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne la chose qu'on recherche. Je donnais une formation l'année dernière à des jeunes en journalisme à l'Université Laval et je leur disais, c'est pas la clip qu'on veut, c'est l'histoire qu'on veut.
Là-dessus, on va entendre Roman Cerda qui pourrait vous poser la question, t'es où?
T'es où quand tu dis rien? Est-ce que tu penses à quelqu'une? Est-ce que tu penses à quelqu'un? Est-ce que t'es dans la lune? Est-ce que t'es pas trop loin? T'es où quand tu dis rien? Est-ce que tu penses à nous et à nos lendemains? Est-ce que ton cœur est fou? Toujours autant du mien? T'es où quand tu dis rien? Je te connais par cœur. Tu gamberges sans fin. Tu vis avec la peur de me perdre demain. T'es où quand tu dis rien? Pourquoi je m'imagine que tu as du chagrin? Ton bonheur m'illumine. Dis-moi ce que tu crains. T'es où quand tu dis rien? Est-ce que tu penses à la vie, à la mort, aux copains? La vie est si jolie, ne me
tu n'oublies pas que tu es mon destin et que mes jours sans toi ne vaudraient vraiment rien. T'es où quand tu dis rien? Je te connais par cœur. Tu gamberges sans fin. Tu vis avec la peur de me perdre demain.
On revient rapidement, Denis Martin, avec une autre chanson, si vous voulez bien. Je veux juste que vous me le présentiez. Pourquoi vous avez choisi Harmonium pour un instant?
C'est encore un grand souvenir de ma jeunesse, mon adolescence. Et Harmonium, ben pour un instant, j'ai retourné mon miroir pour mieux me voir. Il y avait comme quelque chose, une introspection que je trouvais très belle dans cette chanson-là qui venait, encore une fois, chercher certaines choses en moi.
Pour un instant, j'ai oublié mon nom. Ça m'a permis enfin d'écrire cette chanson.
D'entendre Harmonium pour un instant, le choix de Denis Martin Chabot. On en est déjà rendu à la dernière partie de notre entretien, Denis Martin. Je voudrais quand même qu'on parle de l'amitié. Il y a des gens...
On l'a escamoté, oui.
On l'a escamoté, mais oui. C'est tellement important, l'amitié.
Oui. L'amitié, comme je dis, pour un homme gay qui n'a pas de descendance, c'est ce qui nous reste. C'est les amis. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Et j'ai des amis, je pense à Daniel, Daniel Doddridge, je vais même dire son nom, il s'entendra. On se connaît depuis l'âge de 11 ans, ça fait 44 ans qu'on se connaît. Je peux appeler Daniel demain, ça fait déjà un mois, deux mois que j'ai pas parlé. On reprend la conversation comme si de rien n'était. Je peux penser à Chantal Thibault, je peux penser à Francis Bernier, tous ces amis qui sont là dans ma vie, qui et ça, c'est quelque part, c'est un peu ma famille à moi. Et je suis très fidèle en amitié.
Quelle est la principale qualité d'une amitié profonde?
Je ne les juge pas, ils ne me jugent pas. On s'écoute, on s'entend, on se parle, on se dit nos quatre vérités. Puis même quand on est un peu fâché, on va prendre une bière après, puis tout va bien dans le meilleur des mondes.
Alors, ils sont là dans les moments heureux et dans les moments moins heureux. Et oui. Ils sont là côté cour, côté jardin.
Et je n'ai pas à jouer un rôle, je n'ai pas à me cacher pour eux.
Ben, Denis Martin, ça a été vraiment formidable que de vous accueillir. Avant de se quitter, j'aimerais, parce qu'on est en début d'année, on a du temps généralement, on a toute l'année pour lire. Si on veut lire vos bouquins, parce que là, il y en a quelques-uns oui. qui sont apparus. Alors, quelques titres.
Alors, Rue Sainte-Catherine-Est, Métro Baudry, qui est mon premier de la série de deux romans, et l'autre, c'est « Il y a longtemps que je t'aime, je ne t'oublierai jamais », c'est aux éditions de la semaine. Richard Abel, Ma vie en noir, mon histoire en noir et blanc. Et peut-être Maman Nicole, aux éditions Clermont.
Alors, il y a de quoi passer de belles heures à vous lire, à découvrir aussi le visage et la vie d'autres individus, comme je pense particulièrement à Richard Abel, que l'on peut voir sillonner le Québec et oui. le monde mm-hmm. avec ses doigts magiques sur le piano, mais qui a aussi, comme tout être humain, eu une vie en haut et en bas.
Les touches blanches et les touches noires de sa vie.
Les touches blanches et les touches noires, j'aime bien cela. Alors, le temps de vous dire merci encore une fois, Denis Martin. Bon succès pour la suite des choses. Il y aura sûrement d'autres volumes à paraître. Émission réalisée sous la supervision technique de Pierre Degagné, Armand Dubois qui vous parle, à l'animation et la réalisation. Et encore une fois, un beau succès pour la suite des choses. Il y en aura sûrement de très nombreux, n'est-ce pas?
J'espère. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.
Au plaisir. Thank you.